Encore d'autres rencontres spirituelles. En ce 28 juillet, nous avons au programme plusieurs saints aujourd'hui, des saints assez extraordinaires, mais je voudrais vous mentionner, je regardais tout à l'heure dans le journal, l'annonce du décès d'un martyr. C'est pas tous les jours que meurt à Montréal un martyr. En fait, il est mort à la chute, à l'hôpital de la chute, mais c'est un Montréalais, un jésuite italien. C'est Pietro Leoni, ce jésuite extraordinaire, qui est mort à l'âge de 86 ans, mais vraiment un martyr, hein, vous savez. Il est entré chez les jésuites à Rome le 10 novembre 1927. Alors, sur ses premières années de ministère, on a peu d'informations, nous dit la notice nécrologique parue dans les journaux aujourd'hui. Mais on nous annonce qu'il a passé 10 ans dans un camp de concentration en Union soviétique. Ce fut pour lui un long et très austère noviciat qui l'a fait considérer par plusieurs comme digne de l'auréole des martyrs. Le père Pietro Leoni est arrivé au Canada en 1959, il y a donc 36 ans. Il a exercé son ministère à la mission russe. Vous savez qu'il y a une mission russe catholique à Montréal qui s'appelle la mission russe de la présentation. C'est sur la rue Guizot, près du boulevard Saint-Laurent. C'est une charmante petite église russe, tout à fait russe, avec ses oignons, comme on appelle, ses formes architecturales, superbe, que l'on voit d'ailleurs dans les grands monastères et les grandes églises russes en Russie d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et alors, il était assistant, le père Léoni, assistant du père Joseph Ledy, qui a fondé cette mission russe pour les Russes catholiques de Montréal. Et il lui a succédé en 1986, donc il y a moins de 10 ans. Tout en continuant son ministère, je l'ai vu célébrer la messe là plusieurs fois, où il n'y a pas beaucoup de Russes catholiques à Montréal, mais les quelques-uns qui sont là chantent quand même très bien. Vous savez que la liturgie russe exige une bonne chorale, et le chant de la liturgie russe orthodoxe, qui est pratiquée par ces catholiques-là, c'est-à-dire la liturgie byzantine, c'est magnifique, c'est très très beau. Je me souviens d'être allé à Rome en 1950 dans la nuit de Pâques au Russicum. Le Russicum, c'est un centre d'études de théologie destiné aux catholiques russes qui se veulent théologiens ou surtout prêtres. Parfois, des prêtres de rite latin sont autorisés par le Vatican à passer au rite russe pour servir la communauté russe catholique. Et j'avais vu là le père Ménard et un autre jésuite qui concélébraient autour d'un évêque russe catholique une célébration de Pâques absolument admirable qui avait duré 4 heures. C'était de toute beauté. Le chant était sublime, très 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 beau. À Rome, n'est-ce pas, au Russicum. Et alors donc, notre père Leoni a aussi été aumônier d'hôpital à Santa Cabrini de 1966 à 1979, tout en s'occupant de la mission russe avec le père Ledy à ce moment-là. Il s'est occupé activement de groupements comme l'Armée Bleue et les Amis du père Pio. Un jour, je vous parlerai du père Pio que j'ai connu. Je me suis confessé à lui, à San Giovanni Rotondo, je lui avais demandé ce que je devais faire de ma vie. Il m'avait dit, suivez les conseils de votre directeur, moi qui m'attendais à une déclaration miraculeuse. Le père Leoni, qui vient de mourir, a été un collaborateur régulier de plusieurs journaux italiens de Montréal. Alors prenez bien note. La dépouille du père Leoni, ce grand martyr du XXe siècle, sera exposée dans sa petite église à compter de 2 heures cet après-midi, de 14 heures. Sa petite église, je vous donne l'adresse, 44 rue Guizot-Ouest. Et oui, c'est un peu au nord de la rue Jarry. Quand on descend au métro Jarry et qu'on va jusqu'à Saint-Laurent, il suffit de remonter Saint-Laurent et on peut se rendre donc à la rue Guizot. Alors le père Léonie, comme la plupart des prêtres, peuvent être exposés comme ça dans une église et souvent dans leurs ornements sacerdotaux, ce qui est très impressionnant. Donc à 2 heures cet après-midi, il y aura une cérémonie funèbre selon le rite byzantin ce soir à 20 heures dans cette église. Les funérailles seront célébrées samedi, demain, à 14 heures dans l'église Saint-Vincent-Ferrier, cette immense cathédrale, pour ainsi dire, c'est une immense église dont le curé est un bon ami à moi, le curé Aucoin, Monseigneur Aucoin, qui a déjà été curé de la cathédrale de Montréal, et qui avait vu à sa réfection dans le temps, à la transformation de la cathédrale, pour le mieux d'ailleurs. Alors donc, dans l'église Saint-Vincent-Ferrier, qui est angle des rues Jarry et Drolet, on descend au métro Jarry, et on se rend facilement au coin de Drolet, pour ses funérailles demain après-midi à 2 heures. L'inhumation se tiendra au cimetière des Jésuites à Saint-Jérôme. Donc le père Pietro Leoni, que j'ai bien connu, un homme tendre et bon, et un peu nerveux, qui avait beaucoup souffert, énormément souffert, mais qui a exercé un ministère auprès des Russes catholiques de Montréal pendant de très nombreuses années, qui était aumônier d'hôpital, et qui surtout a été un martyr, n'est-ce pas, pendant 10 ans, en Union soviétique. Je profite pour signaler aussi le décès cette semaine d'un catholique étonnant qui est mort à 92 ans, M. Gérard Gamache, qui avait fondé, lui qui aimait la beauté, le club musical et littéraire de Montréal, qu'il a dirigé pendant plus de 60 ans. C'est sans doute un record digne des records mondiaux. Cet homme a tenu ses réunions culturelles au Ritz-Carlton, à l'Hôtel Windsor, et à la fin, c'était à la Bibliothèque nationale, rue Saint-Denis. Ses funérailles ont déjà eu lieu, n'est-ce pas, le 27, hier matin, à 10 heures, à l'église Saint-Nicolas d'Hunsick. J'aimais bien M. Gérard Gamache, qui m'a invité à donner des conférences sur les gens merveilleux que j'ai eu la chance de connaître grâce à l'émission Rencontre et la télévision de Radio-Canada, où j'ai interviewé, où j'ai fait enfin plus de 700 entrevues, sans compter toutes les autres émissions que j'ai faites au cours de ma vie. Il aimait beaucoup m'inviter pour que je puisse parler ainsi des gens, des hommes de lettres, des philosophes, des penseurs que j'avais connus et rencontrés. Il était le seul à s'intéresser à ça, et je lui en suis très reconnaissant. On ne me demandait jamais de parler de tout ça ailleurs. Je n'ai jamais su pourquoi. Donc, M. Gérard Gamache, décédé à 92 ans, et qui avait une foi catholique sérieuse, il me parlait toujours de son amour de Jésus-Christ, et aimait bien que je parle de gens que j'avais rencontrés qui avaient la foi. Et maintenant, pendant quelques instants, je vais vous parler d'une étrange chose, ce sont les martyrs de Thébaïde en Égypte, qui sont morts vers l'an 250. Ce sont des lignes pathétiques que l'on lit dans Saint Jérôme, dans sa Vita Pauli Vie de Paul, écrite vers l'an 377-379, donc à peu près 125 ans après le martyre de ces gens en Thébaïde, c'est-à-dire dans un désert d'Égypte. À vrai dire, ce sont des supplices affreux qu'il nous raconte. C'est pas neuf, n'est-ce pas, toujours des supplices affreux, je vous en ai parlé hier, je ne veux pas vous épouvanter par ça, mais on avait pris un martyr et on l'a exposé aux insectes nus, couverts de miel. Ça s'est fait souvent, ça, ces martyrs, même avant le christianisme. D'ailleurs, le grand dramaturge français Corneille, dans sa tragédie Théodore, met dans la bouche des païens des vers terribles. Voici les deux vers. Comme dans les tourments vous trouvez des délices, en vue dans les plaisirs, vous trouvez des supplices. Ce qui veut dire, vous avez compris, n'est-ce pas, comme dans les tourments. Vous autres, les chrétiens, là, vous trouvez des délices. Nous, les païens, en vue dans les plaisirs, vous trouvez des supplices. C'est la façon de Corneille de résumer la question. Un traducteur de Saint Jérôme, au XVIe siècle, dans son style un peu particulier, nous donne le récit terrible du martyr, d'un des martyrs de Thébaïde, en l'an 250. Il écrit « Ce tyran et ministre de Satan commanda qu'on amenât un autre jeune, un jeune garçon, un jeune homme, et en la fleur de son âge, dans les jardins pleins de tout plaisir. Et comme là, on vit un petit ruisseau, et puis qui bourdonnait entre les lys et les roses, et que le vent y sifflait gentiment, on y a dressé, je vous fais une traduction plus moderne, parce que s'il fallait que je lise le texte ancien, c'est incompréhensible. Et alors, on a dressé là, dans ce jardin, pour le jeune homme, un lit paré, sur lequel ce jeune homme a été étendu, de telle sorte qu'il ne pouvait remuer. Il était lié par des cordons de soie. Et là, chacun s'étant retiré, on a fait avancer une belle paillarde, dit-on, c'est-à-dire une femme aux rondeurs assez remarquables. Et puis, elle s'est approchée du cou du pauvre témoin de notre Seigneur, du pauvre futur martyr, en l'embrassant et en le caressant, afin d'inciter son corps à la corruption, dit-on. Et alors, ce pauvre témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit le texte, ou bien ne savait que faire, ni de quel côté se tourner. Alors celui que les tourments n'avaient pu émouvoir, dit le texte, la volupté l'ébranlait et étant presque prêt à donner, à céder, n'est-ce pas, à donner les abois. Mais, à la fin, on dit qu'il est inspiré du ciel, c'est assez curieux, il a été fortifié par un ange, et il a tronçonné sa langue avec ses dents. Il s'est coupé la langue avec ses dents, puis il a craché le morceau en la face de celle qui voulait le séduire. Quelle horreur! C'est, moi, je vous lis ça simplement pour à la fois vous terrifier, mais aussi pour vous faire rire un peu. Alors donc, on dit que c'était là le vrai remède qui avait été allumé dans son âme pour résister à cette femme. On dit que cet épisode absolument saisissant dans les vieux textes de Saint Jérôme a été retenu par Saint François de Sales, non pas dans un de ses livres, mais même dans deux, dans l'introduction à la vie dévote que beaucoup d'entre vous ont peut-être lu, n'est-ce pas, au chapitre 4, section 4, n'est-ce pas, qu'il a écrit en 1609, l'édition définitive, c'est 1619, hein. Il a aussi cité ça dans le fameux traité de l'amour de Dieu, qui date de 1616. Voici les textes, je vous les lis parce que c'est très curieux. Le jeune homme, duquel parle Saint Jérôme, qui couché et attaché avec des écharpes de soie bien délicatement sur un lit mollet, était provoqué par toutes sortes de vilains attouchements d'une impudique femme qui était couchée avec lui, exprès pour ébranler sa constance. Sans doute, et néanmoins parmi tant de troubles, dans un si terrible orage de tentation et entre tant de voluptés qui sont tout autour de lui, il témoigne que son cœur n'est point vaincu et que sa volonté n'y consent nullement, puisque son esprit, voyant tout rebeller contre lui et n'ayant plus aucune des parties de son corps à son commandement sinon sa langue, il se la coupa avec ses dents, et la cracha sur le visage de cette vilaine âme qui tourmentait la sienne plus cruellement que la volupté que les bourreaux ne se jamais su faire par les tourments. Et puis dans le traité de l'amour de Dieu, le texte est beaucoup plus simple. Je pense que Saint François de Sales commençait à se calmer. Et voici le texte. Le jeune homme, duquel parle Saint Jérôme, se coupant la langue à belles dents et la crachant sur le nez de cette maudite femme qui l'enflammait à la volupté, ne témoignait-il pas d'avoir, en la volonté, une extrême affection de déplaisir, contraire à la passion de plaisir que par force on lui faisait sentir en la convoitise et appétit sensuel. C'est un peu tordu, mais on voit le sens, n'est-ce pas? De toute façon, il y a John Henry Newman, le fameux cardinal venu de l'anglicanisme au 19e siècle, qui écrit ceci, et je termine là-dessus. Voici ce que dit le cardinal Newman. « Ce sont de ces actes-là qui nous ouvrent un coin du ciel. C'est comme un rayon inattendu de la lumière d'en haut et des splendeurs surnaturelles à travers notre sombre atmosphère. » Vous savez que Newman était un homme extrêmement instruit et très sage. Alors je vous lis le texte calmement parce que si j'ai pu sourire en lisant tout à l'heure le récit de ce martyr, il faut quand même, avec notre âme de croyant, être capable de considérer le geste de ce jeune homme, qui nous a été rapporté par Saint Jérôme, et d'un martyr qui date de l'an 250, il faut être capable de considérer ça sérieusement quand même. Et c'est ce que je fais en lisant donc le texte du cardinal Newman. Je continue. « Ces actes-là illuminent notre âme et l'agrandissent, si l'on peut dire, en lui apportant tout un ensemble d'idées qu'elle n'avait jamais eu jusqu'alors. Et surtout, ces actes montrent à la masse des gens ce que Dieu peut faire et ce que l'homme peut devenir. Non pas que tous les saints aient eu pareille jeunesse, car il en est tout au contraire, qui n'ont été amenés à se convertir, et cela par un effet souverain de la grâce, qu'après avoir passé leur jeunesse dans le péché. Et c'est vrai que beaucoup de vies de saints commencent par des vies complètement dissolues, terriblement dissolues, pour arriver finalement à une compréhension profonde de ce que c'est que la vie, qui ne peut être intéressante que si on est uni à Dieu. Et alors nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, et je vais vous parler maintenant d'un pape, Saint Innocent Ier, qui est né à Albano en Italie et qui a été élu pape au tout début du 5e siècle, soit à la veille de Noël, le 22 décembre 401, et il est mort le 12 mars 417. Ça lui donne donc un règne d'un peu plus de 15 ans. Son pontificat a vu des choses étonnantes. Il a vu d'abord, en 410, le fameux pillage de Rome par les Goths, les Visigoths d'Alaric. Et c'est lui qui a établi l'observation des rites romains dans la liturgie en Occident, qui a vu en somme au début de l'unification de la façon de célébrer la messe selon le rite romain. Et c'est lui aussi qui a clos ce qu'on appelle le catalogue des livres canoniques, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit rentrer dans la Bible et qu'est-ce qui ne doit pas rentrer dans la Bible. C'est lui, enfin, qui a réglé aussi qui a décidé des règles monastiques, lesquelles seraient observables et lesquelles ne devraient pas l'être, afin d'éviter les excès. Et puis, c'est lui qui a obtenu de l'empereur, un des derniers, l'interdiction des luttes des gladiateurs qui se tuaient les uns les autres, parfois, dans le cirque. Je sais pas ce qu'il aurait dit de la boxe qui parfois, aujourd'hui, entraîne à la mort. Alors Saint Innocent, donc, était, avec Saint Léon le Grand, le plus remarquable des papes du 5e siècle. Il était moins théologien, moins un penseur que Léon le Grand, mais il était un meilleur administrateur. Il a joué parmi les églises d'Occident et même dans l'église d'Orient, qui n'était pas séparée de nous à l'époque, un rôle vraiment prépondérant, un rôle décisif pour l'avenir. Je vous ai dit qu'il était né à Albano. On y fait, dans cette région de Rome, des vins réputés, hein, de très bons vins. Soit dit en passant, c'est tellement bon un bon verre de vin. On dit ce qu'on voudra. Hein. Et alors, je ne veux pas encourager les gens à en boire trop, là. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Et alors, selon Saint Jérôme, Saint Innocent Ier aurait été le fils et successeur du pape Anastase. Mais je crois qu'on doit comprendre fils spirituel. Je ne pense pas qu'il ait été vraiment le fils de ce pape. Car vous savez qu'il y a eu des papes mariés, hein, avant l'établissement du célibat ecclésiastique. Donc, sous son pontificat, je vous rappelle les dates, 401 à 417, se place cette prise de Rome là, par les barbares d'Alaric dont je vous ai parlé en 410. C'était épouvantable, on n'a pas idée. Hein. Ils ont saccagé Rome, hein. Ce fut effrayant, mais effrayant. D'ailleurs, Alaric est mort l'année suivante après avoir fait ça, il est mort dans le sud de l'Italie, et son corps a été enterré dans un torrent. C'est très symbolique, un torrent, car les Visigoths ont envahi l'Italie comme un torrent. Ce fut épouvantable. C'était la fin d'un monde. Cet événement a arraché à Saint-Jérôme des accents qui auraient voulu égaler l'immensité de cette catastrophe unique. Il a essayé d'écrire un peu comme dans le style de Jérémie et puis d'Ovid, ou de Sénèque aussi, qui était un auteur italien au sens tragique qu'on étudiait au collège quand j'étais jeune. Hein. Et il a parlé des repas des mères affamées qui dévoraient le fruit de leurs entrailles, comme il dit. J'ignore si les Romaines sont allées jusque-là devant l'horreur de cette conquête de Rome par Alaric. Il a comparé ça, d'ailleurs, avec la ruine de Jérusalem, hein, quand Jérusalem avait été envahie comme ça. La chute de Troie aussi, hein. Virgile nous raconte ça, la chute de la ville de Troie, c'est terrible. Ce furent des écroulements gigantesques qui ont marqué l'histoire de la civilisation. À Rome, ça a recommencé, d'ailleurs, 900 ans plus tard, c'est-à-dire 1100 ans plus tard, 1100 ans plus tard, en 1527, hein. C'est ça qui a inspiré Michel-Ange. Vous savez, quand Michel-Ange fait sa fresque du jugement dernier dans la chapelle Sixtine, on voit des personnages épouvantables, c'est ça qui l'a inspiré, c'est le sac de Rome de 1527. C'est donc un désastre d'apocalypse qui est survenu en l'an 410, et Saint Innocent Ier a été épouvanté par ça. Mais au moment du sac de Rome, lui, il n'était pas là, il était à Ravenne, dans le nord, la belle ville de Ravenne. Si jamais vous allez en Italie, je vous en supplie, allez à Ravenne. Il y a là des édifices magnifiques, remplis de mosaïques à la façon byzantine, dans le style byzantin. C'est absolument superbe, et ça nous fait aimer le grand art de nos frères de l'Église d'Orient, hein. C'est magnifique. André Frossard a d'ailleurs publié un livre superbe qu'il a intitulé « Ravenne » et qu'il m'avait offert alors que j'étais allé souper chez lui un soir. C'était un ami, André Frossard, j'allais souvent manger chez lui. Il me présentait des gens merveilleux pour mon émission « Rencontre » à la télévision de Radio-Canada. Il m'avait remis ce livre, de André Frossard sur Ravenne est de toute beauté et le texte est magnifique. Donc, notre pape Innocent était à Ravenne pour discuter avec l'empereur Honorius, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'une façon d'apprivoiser ce fameux Alaric, le chef des Visigoths. Et le pape est entré à Rome seulement 2 ans après le saccage, en 412. Et sur les ruines, il a bâti les assises de la cité de Dieu et de la monarchie pontificale. Ces décrétales, qui sont des lettres d'un pape pour résoudre des questions de discipline, vont en Italie, en Espagne, en Gaule. Elles sont nettes et impérieuses. Il sait ce qu'il veut et il décide très bien. C'est un très grand pape. Elles traitent des sujets très divers. Mais surtout, elles veulent faire des lois pour que ça marche. Hein? Car sans loi, ça marche pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et le pape a écrit en 416 à l'évêque de Gubbio, vous savez, le fameux, c'est tout près de Pérouge, une autre belle ville. Il écrit « Si les évêques voulaient bien conserver intactes les institutions de l'Église telles qu'elles nous ont été remises par les apôtres, aucune variation, aucune divergence ne s'observerait dans les ordres et les consécrations d'évêques. Qui donc pourrait ignorer ou ne pas reconnaître que ce qui a été remis par le premier des apôtres, Pierre, le premier pape, à l'église de Rome, et s'y conserve jusqu'à ce jour, doit être observé par tous, et qu'il n'y faut surajouter ou introduire rien qui soit sans autorité ou étranger. Il tenait à la saine doctrine dans l'église, il a travaillé à cette cause profondément, ce saint Innocent Ier, pape décédé en 417. Je continuerai tout à l'heure pour vous expliquer d'autres points de vue extrêmement importants de ce pape. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop lourd, mais c'est très important de connaître ces grands papes dans l'histoire. Hein. Administrer une église très vaste qui comprenait aussi Constantinople, où il y avait un très grand évêque, un très grand orateur, qui était Saint Jean Chrysostome, qui était patriarche de Constantinople. Et il était, lui, cet évêque, en très bons termes avec Rome. Il reconnaissait Rome à cette époque. Hein. Et alors, la jalousie d'un évêque qui s'appelait Théophile, qui était évêque d'Alexandrie, était jaloux de Jean Chrysostome. Je ne sais trop pourquoi, puis il a obtenu sa déposition et même l'exil de Jean Chrysostome. Probablement qu'il l'a obtenu de l'empereur de Constantinople. Alors, le pape Innocent Ier, Saint Innocent Ier, n'osait pas trancher trop la question entre ces deux évêques et l'empereur là-bas. Il savait que ça pouvait créer bien des difficultés. Alors, il a réclamé un concile. Un concile qui réunissait les orientaux et les occidentaux. Et puis, il a, lui, dit qu'il refusait sa communion, ou c'est-à-dire son partage, ou l'endossement, si vous préférez, du nouvel évêque qui avait remplacé Saint Jean Chrysostome à Constantinople. Alors, lorsque cette portion de l'Église a renoué ses relations avec Rome en 413, 4 ans avant la mort de Saint Innocent, mais Saint Innocent a témoigné une joie très très vive, car il avait un souci de l'unité de l'Église. Il était plein de modération, plein de sagesse, et sa politique vis-à-vis la partie orientale de l'Église a toujours été fidèle, loyale, habile et respectueuse de ce que ces chrétiens-là étaient et sont toujours aujourd'hui. Carthage, en Afrique du Nord, un peu comme Constantinople, tenait, elle aussi, à des prérogatives, à une sorte d'autonomie. Puis il y avait un conflit là-bas, à Carthage, c'était un conflit qui était suscité par les Donatistes. Les Donatistes, c'est une secte fondée par deux évêques qui s'appelaient Dona, l'un qui était évêque en Numidie, puis l'autre à Carthage, justement, un peu moins d'un siècle avant tous ces événements-là. Alors, eux, ils avaient posé des problèmes, hein, que l'Église d'Afrique, le nord de l'Afrique, était tout chrétienne, en ce temps-là, c'était tout catholique. Ils s'entendaient pas très très bien sur comment solutionner ce problème des donatistes. Hein. Et Rome devait essayer de régler le problème sans donner des ordres, car on craignait qu'en donnant des ordres, il y ait des schismes. Parce qu'il s'agissait... Il s'agissait, à vrai dire, de garder l'unité. Et c'est très difficile de garder l'unité quand les gens tirent à U et à Dia, comme on dit. D'ailleurs, il y a eu un autre schisme possible, c'était le pélagianisme de Pélage, je vous en ai parlé hier. C'est un danger réel, ça, pour l'orthodoxie de la foi, pour que la foi soit vraiment la vraie foi. C'est venu sur le tapis, c'est le pélagianisme. Et puis, l'Afrique du Nord, tous ces évêques-là se sont adressés au pape, en particulier en 416, un an avant la mort de Saint Innocent, notre pape. Là, c'est Saint Augustin qui était évêque, lui en Afrique du Nord, le grand Saint Augustin était évêque d'Hippone. Bien, il lui a écrit au nom de ses confrères dans l'épiscopat pour le supplier, pour que le grand fleuve de la foi qui vient de Rome coule aussi partout, qu'il y ait unité. Et le pape a répondu en janvier 417, « Dès lors qu'il s'agit de foi, » il a répondu à saint Augustin, n'est-ce pas, « Dès lors qu'il s'agit de foi, j'estime que tous les évêques, nos frères, doivent en référer uniquement à Pierre et à son successeur, l'auteur de leur titre et de leur dignité, comme vient de le faire votre dilection, c'est-à-dire comme vous venez de le faire, en sorte que le monde entier, avec toutes ses églises, y trouve une commune utilité. Alors le bon zèle, on peut dire, des Africains, rendait le pape, Innocent Ier, un peu lyrique. Hein. Ça ressemble d'ailleurs au fameux chant qu'on chantait autrefois, l'Exultet du Samedi Saint. Hein. C'était très beau quand on allumait le Serge Pascal. Hein. Il dit « L'exulte, l'Église exulte ». Et puis, quand il a dit ça à Saint-Augustin par lettre, Augustin lui a dit « L'affaire est finie, puisse finir également l'erreur ». Alors, on a prêté au saint cette formule qui ne trahit pas sa pensée. « Rome a parlé, l'affaire est liquidée ». Ça date pas d'aujourd'hui hein, que des gens pensent comme ça. « Rome a parlé, l'affaire est liquidée ». Et je crois que de toute façon, comme catholique, moi personnellement, je préfère, avant de critiquer ou de remettre en question ce qui nous vient de Rome, je préfère lire attentivement les textes. Je préfère laisser les passions se calmer. Et je préfère voir vraiment pourquoi les idées qui nous sont énoncées par le pape sont telles, même si au début elles me semblent étranges. Et j'apprends, la plupart du temps, à les endosser et à les respecter avec amour et avec un grand respect. Je pourrais vous dire plusieurs fois où dans ma vie je me suis un peu révolté au fond de mon cœur contre Rome, mais aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, je préfère être beaucoup plus calme, plus posé. En Palestine, je reviens à Innocent Ier, le monastère de Saint-Jérôme avait été victime d'une razzia sanglante, et le vieux moine Saint-Jérôme se plaignit à Rome de ce que son évêque, Jean de Jérusalem, aurait dû y veiller. Le pape a adressé des condoléances à Jérôme, et à Jean, il a adressé à l'évêque des remontrances sévères. Il lui a adressé des remontrances très sévères. Il devait prendre soin de ses meilleures brebis, disait Innocent. Et le pape Innocent Ier a pris des mesures contre donc les hérétiques. Il a dédié la basilique Saint-Gervais et Protais, qui s'appelle maintenant Saint-Vital, au bas du Quirinal. Il a fait toutes sortes de choses. Il a fait ça grâce au don d'une dame très riche. Beaucoup de constructions dans l'histoire de l'Église sont dues à de nobles dames ou à des dames riches qui étaient veuves et qui finalement laissent leur fortune pour établir des orphelinats, des hospices ou des églises en pays de mission ou toutes sortes de choses. C'est incroyable la générosité de bien des catholiques et bien des chrétiens dans les différentes églises. C'est remarquable. Il a institué, lui, ce pape, un jeûne le samedi en mémoire de la mise au tombeau. Alors, ceux qui pratiquent certains jeûnes demandés par la Vierge à Medjugorje le samedi, qu'ils le fassent en pensant à la mise au tombeau quand le Christ est enseveli dans le linceul sur lequel il laissera les traces de son corps au moment de sa résurrection, ce qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin. Ce pape a fait 54 ordinations épiscopales. Et après avoir régné un peu plus de 15 ans, comme je vous ai dit au début, il a été enterré le 12 mars. Et non pas le 28 juillet, mais toutefois, on le célèbre le 28 juillet depuis une très 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 longue tradition. Enfin, je voudrais vous dire quelques mots d'un saint très curieux, un évêque de Bretagne, Saint Samson. Ça se dit mal. Saint Samson. Il y a des Samson, c'est un nom de famille qui existe. On le donne plus comme prénom. Une controverse s'est établie au sujet de sa vie. Voici qu'un vieillard, d'ailleurs, un cousin de notre Saint Samson, a dicté à un homme, moine, qui était spécialisé dans la rédaction des Vite Saints. À Dol, Dol, D-O-L, c'est en Bretagne, c'est une ville très importante, où Saint Samson a été évêque. On dit que lorsque le petit Samson a demandé à son père d'étudier, celui-ci a hésité. Il craignait que son fils, devenu savant, ne devienne religieux. Et il ne voulait pas de religieux dans sa famille, mais notre Seigneur a fait comprendre que son devoir de père était d'aider son fils à s'instruire. Et le père, finalement, amenait son enfant à l'école du monastère, qui était dirigé par un saint au nom extrêmement curieux de Iltut, I-L-T-U-T. Et au bout de 10 ans, notre jeune Samson, qui avait travaillé avec beaucoup de ferveur, en savait autant, dit-on, qu'un docteur. Il arrivait même à vaincre les difficultés qui arrêtaient ses maîtres, et un jour, cherchant une explication qu'il ne trouvait ni dans les livres ni auprès de ses supérieurs, il est entré en profonde prière. Et puis, la troisième nuit, tandis qu'il était en oraison, eh bien, ce fut comme si sa chambre s'emplissait de clarté. La lumière spirituelle qu'il avait, si fort implorée, n'est-ce pas, illuminait son intelligence, et il a eu foi que, désormais, il serait accordé toute grâce qu'il demanderait au ciel. Et alors là, des miracles ont répondu à sa confiance. C'est ce que nous raconte ce récit. Et alors qu'il arrachait des mauvaises herbes d'un champ de blé en compagnie de certains étudiants, un serpent a mordu l'un d'eux à la jambe. Et il allait mourir, et Samson verse de l'eau bénite sur la plaie. Avec une intense prière, et le garçon est délivré de tout mal. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent encore l'eau bénite. Vous savez que c'est un sacramental qui rappelle à la fois et notre baptême, et la pureté de cette eau qui est absolument nécessaire à notre corps, car sans eau on meurt. Hein. Nous sommes d'ailleurs d'origine aquatique, d'après les gens qui nous disent que dans l'évolution nous viendrions des fonds de la mer finalement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de croire à l'évolution pour admettre ça, mais nous sommes faits, vous savez, 70% de notre corps est fait d'eau. Alors l'eau bénite nous rappelle le baptême, et c'est une des choses les plus merveilleuses de la terre, et je crois qu'en l'utilisant avec foi, elle peut soulever notre prière et nous faire obtenir de Dieu certaines grâces, parce qu'on n'y prierions peut-être pas avec autant d'intensité si nous n'utilisions pas ce sacramental merveilleux, moi je trouve, que j'utilise continuellement. J'en ai toujours de l'eau bénite chez moi, et je ne m'en cache pas. Bon, des gens vont trouver que c'est naïf. Je ne crois pas que ce soit naïf. C'est très beau. D'ailleurs, on en trouve d'ailleurs dans l'entrée de toutes nos chapelles et nos églises. Et pourquoi pas se signer avec de l'eau bénite, en approfondissant notre baptême tout en se rendant à sa place. Une autre fois, on dit que Saint Samson, on lui réclamait son intercession pour sauver des paysans de la ruine, parce qu'il y avait des nuées de corneilles qui s'abattaient sur leurs champs et mangeaient toutes les semailles, hein, mangeaient le grain. Et puis, ils étaient incapables de les disperser. Alors, il a suffi de la confiante prière de notre Saint Samson pour que les oiseaux se sauvent. Quand il a fini ses études, il a demandé avec beaucoup d'insistance de se faire religieux. Alors là, son père, se souvenant que du fond du cœur, il avait déjà accepté qu'il fasse des études, son fils, et puis qu'il ne devait pas s'opposer à ces demandes-là. Il n'a pas osé refuser la demande de son fils. Et là, la vie de Samson n'a plus été que prière et labeur. Ora et labora. C'est la devise des bénédictins. Hein. Ora et labora. Prière et travail. J'ai mené cette vie pendant 2 ans. Ce sont les 2 plus belles années de ma vie. Que c'est merveilleux que de prier et de travailler avec des frères, sous la conduite de Dieu lui-même. Et Saint Samson dort sur la terre, et même debout parfois, appuyé contre la muraille. Vous serez peut-être surpris, mais vous savez qu'il y a des indigènes en Australie qui dorment debout, appuyés contre un bâton. On les voit d'ailleurs sur des photos. Hein. Saint Samson entraîne ses frères moines à la vie spirituelle, aux durs travaux. Ils déblaient le sol autour des cellules. Ils arrachent les arbres des forêts. Ils vont remplacer des bois de pommiers. Ils tracent des routes. Ça me rappelle ma vie à Saint-Benoît-du-Lac. Et les populations autour, bien, recueillent les bienfaits des moines. L'évangile rayonne dans leur cœur. Alors là, on dit que le démon s'est vengé en suscitant l'envie et la haine dans le cœur des neveux de l'abbé Iltut, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les neveux lâchent pas une occasion de témoigner au père abbé leur aversion de Samson. Et notre Saint Samson éprouve une peine extrême à voir se perdre ses pauvres âmes qui le critiquent ils le méprisent. Alors pour la conversion de leur cœur, ils redoublent de pénitence, dit-on. Et puis, finalement, on essaie de l'empoisonner. Mais il s'aperçoit que le breuvage qu'on veut lui donner est différent des autres. Alors, il ne veut pas faire à ces scélérats-là l'injure de soupçonner qu'ils veulent l'empoisonner. Alors, il se confie à la promesse de l'Évangile pour ceux qu'anime une foi vive, n'est-ce pas? Alors là, il avale la boisson qui contient la mort. Puis il dit, mon frère, la tisane que vous m'avez préparée est délicieuse. Puisse Dieu en retour vous guérir du mal qui vous fait souffrir. Et Saint Samson, dit-on, n'a pas été empoisonné. Et à l'entendre, eh bien, les coupables, voyant qu'ils ne mourraient pas, sont bouleversés par la parole qu'il leur a adressée. Ils se seraient convertis. 2 ans plus tard, notre Saint Samson a été élevé au sacerdoce. Et l'évêque qui l'a ordonné a aperçu, dit-on, une colombe blanche posée sur l'épaule du nouveau prêtre. Moi, je n'y crois pas. Mais je me dis que l'Esprit Saint accompagne un prêtre le jour de son ordination. Et que le prêtre, le jour de son ordination, est particulièrement appelé à la sainteté, à une reconfirmation de son baptême. Et les prêtres sont particulièrement appelés dans l'Église à être des saints, comme ce prêtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le père Pietro Leoni, qui sera exposé à compter de 2 heures cet après-midi dans sa petite église russe catholique sur la rue Guizot, près de Saint-Laurent. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu le début de cette émission. Le père Leoni a été un martyr. Il est mort à 86 ans, ce jésuite. Donc, notre Saint Samson a mené une vie d'évêque par après avoir été supérieur d'un couvent dans une île, l'île de Caldé, qui est une île de saints dans l'histoire. Hein. Sa charité était immense, dit-on. Et jamais il n'a accepté qu'aux portes du monastère, on rejette un pauvre. Et d'ailleurs, un jour qu'il a vu un pauvre complètement démuni près du monastère, il a exigé que soit donné à tous ces mendiants qui étaient là le miel des ruches du monastère. Et les moines s'en sont inquiétés. Ils disaient, on n'aura plus de miel. Mais le lendemain, les ruches étaient pleines de miel, raconte-t-on. Ces histoires peuvent sembler étranges, mais c'est la leçon qu'il faut retirer de ces histoires si par hasard elles n'étaient pas vraies. C'est à savoir que plus on donne, plus on reçoit. Et il est vrai que j'entendais aux nouvelles ce matin à Radio-Canada qu'à Ottawa, les jeunes sont tellement généreux de leur temps dès l'âge de 11-12 ans comme bénévoles dans certains hôpitaux à Ottawa qu'il n'y a plus de place pour ces jeunes bénévoles de 11 à 16-17 ans. Tellement ils sont nombreux. Et les hôpitaux à Ottawa ne savent plus quoi faire. C'est formidable. C'est parce qu'ils savent, ces enfants-là, que plus ils donnent, plus ils reçoivent. Il y avait une petite fille de 16 ans qui disait qu'elle a plus reçu en donnant, qu'elle n'aurait jamais pensé. Car elle a appris à parler, à se mouvoir, à être attentive aux vieillards. Et tout à coup, ça lui a attiré d'autres choses, et même du travail ailleurs. C'est formidable, ça lui permet de faire de meilleures études. Donc, notre Saint Samson a mené une vie de générosité comme abbé et finalement comme évêque aussi. Il a toujours été un protecteur des pauvres hein, et il a dû combattre comme évêque de Dole en Bretagne pour défendre ces pauvres gens qui avaient été attaqués par des Normands. Et tout son l'époque où il a été évêque à Dole l'ont ruiné sa santé petit à petit et il n'a pas survécu à tous les voyages qu'il faisait à Paris auprès des rois francs pour obtenir des grâces pour ses gens. Il a été brisé de vieillesse, il n'a pas tardé à mourir et c'est au retour d'ailleurs d'un voyage là-bas qu'il est mort. Et en Grande-Bretagne, son culte est demeuré vivace. Et comme il est mort en Bretagne, à Dole, bien en France, les Normands même qui avaient envahi la Bretagne, qui sont catholiques aujourd'hui, évidemment les Bretons aussi qui sont très catholiques, alors se sont unis après sa mort pour le vénérer. Même le culte s'est propagé en Italie. De toute façon, Rien qu'en France aujourd'hui, il y a 16 paroisses ou villes ou petits villages qui portent son nom, hein, et toutes sortes d'endroits portent le nom de Saint-Sanson. Saint-Sanson, un homme qui a vécu pour Dieu toute sa vie et qui s'est donné entièrement, même s'il était abbé de monastère, même s'il était évêque, a toujours pensé aux plus pauvres. Voici maintenant, pour terminer, un petit mot sur Saint-Raymond Palmerio, un de mes patrons, qui est mort en l'an 1200. On l'appelle Raymond de Plaisance, c'est-à-dire qu'il est né à Palmerio, ou Plaisance, en Italie. Pour l'essentiel de cette vie, c'est très court. Ça nous a été transmis par Ruffin, qui se donne le titre de maître. Alors, on peut se douter un peu de ce qu'écrit ce pauvre homme qui se dit maître. Mais enfin. Donc, il est né à Plaisance, en Émilie, vers 1140. Il serait mort donc à 60 ans. Et ses parents étaient de la bourgeoisie moyenne. On l'a placé à 12 ans pour qu'il apprenne le commerce. Et son père, quand il est mort, eh bien, ce jeune adolescent, Raymond de Plaisance, a fait un pèlerinage à Jérusalem. Puis finalement, il s'est marié après la mort de sa mère. Puis il a eu 5 enfants. Mais il a perdu ses 5 enfants en une seule année. Ils sont morts de diverses maladies. Alors là, il a exhorté sa femme à la chasteté totale, mais elle lui a répondu « Tu m'as épousé, je suis ta femme et non pas une veuve ou une nonne. » Elle était décidée, hein, voulait être son épouse. Elle devait l'aimer. Alors, un fils est né encore. On l'a nommé Gérard. Et notre saint Raymond, le père, l'a offert secrètement à Dieu. Son épouse est morte quelque temps après. Alors Raymond a confié son petit garçon Gérard à ses beaux-parents. Il est parti en pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle, dont je vous ai parlé cette semaine, ce grand lieu de pèlerinage. On en est parlé à l'occasion de la fête de Saint-Jacques. Et au retour, il a fondé à Plaisance, donc en Italie, un hospice pour les pauvres, dans lequel il y avait un local pour les femmes, meilleur, et plus abrité d'ailleurs que celui des hommes. Hein? Les femmes étaient mieux traitées que les hommes. Vous entendez ça, là, mesdames, là? Ça se passe il y a longtemps, au 12e siècle. Et la charité de notre Saint-Raymond s'ingéniait à rendre service à tous, les veuves, les orphelins, les gens en querelle, les prisonniers. Il s'opposait à tous les jeux violents qui pouvaient entraîner la mort de quelqu'un et qui venaient des jeux des gladiateurs. Hein. Lui aussi s'est opposé, comme notre pape tout à l'heure. Hein. Et Alain, il a fait interdire à l'évêque et au magistrat de voir à l'interdiction des choses qui n'étaient pas bonnes dans le diocèse. Il faisait des pressions, bien qu'il était laïque. Il est mort donc en 1200, le 27 juillet au soir, à l'âge de 60 ans. Il avait exhorté son fils Gérard à rentrer en religion. Il s'est tourné vers la croix en disant « Je passe de ce monde à mon sauveur, à mon créateur. » Et je me remets dans tes bras, ô mon Dieu, en vénérant ton nom, et je me fie à ta puissance. Après avoir prononcé ces paroles de confiance en Jésus-Christ, il expirait paisiblement, et son fils Gérard, qui avait 26 ans à la mort de son père, est entré sans tarder en religion. Il y a de quoi avec un père comme ça, avec l'influence qu'on reçoit d'un tel père. À 26 ans, c'est difficile de ne pas entrer en religion, j'imagine. Donc, Saint-Raymond de Plaisance.